Ah bon Dieu! Des affiches sur les portes des granges. C'est donc encore quelques baladins, aujourd'hui dimanche, qui dansent sur des cordiaux ou bien mitonnent leur place. Non, c'est point ça. Oh! Tantôt on vote à la mairie. Et des grands mots qui futent sur le dos du vent qui passe. Dévouement. Intérêt. République. Patrie. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons. Sans vos touches, ni plus ni moins que tous les autres jours. Enfin, tant de loin en loin, long des affiches du bourg. Les électeurs sans vote aux urnes en s'engorgeant. En route, allons voter. Crée bon Dieu les bonnes gens. C'est nous que ch'nouasseurs les massins de la charrue. Chalons la faire aller à Dia ou ben oui. Pas d'abstention. C'est votre idée qui vous appelle. Profitons de ce que j'ai, suffrage universel. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pâture dans les champs d'orge à belle goulée tranquille, sans se mensonger qu'ils sont privés de leurs droits civils. Il y a monsieur Chose, il y a monsieur Machin comme candidat. Les électeurs n'ont pas les mêmes paires de lunettes. Moi, je voterai pour ce style-là. Ben moi, j'y voterai pas, c'est une foutue crapule. C'est un gars qui est honnête. C'est un partageux, c'est un cocu, c'est pas vrai. On dit qu'il fait lever son gauche sur les curés. C'est un blanc, c'est un rouge. Qui disent les électeurs? Les aveugles se chamaillent à propos des couleurs. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons foutent un peu que leur gardeux est non Paul ou non Pierre, qu'ils soient noirs comme une taupe ou rouquins comme carotte. Ils brument, ils bellent, ils goussent, tout comme les gens qui votent, mais ils savent pas ce que gueuler vivement sur le maire. C'est un tel qui est élu. Les électeurs vont boire. D'aucuns comme à la noce, d'autres comme à l'enterrement. Et le soir, et le peuple souverain s'en retourne en brandillant. Il y a du vent, il y a du vent qui fait tomber les poires. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons prennent tous les derbés de grains tous les jours de la semaine et se mettent pas à choir parce qu'ils ont la panse pleine. Les élections sont terminées. Comme qui dirait que voilà les couvrailles vêtes et qu'on attend moisson. Faut que les électeurs portent écus blancs et jaunets aux percepteurs de leur canton. Les petits ruisseaux vont se perdre dans les grands fleuves du budget, où ce que les malins pêchent, où ce que naviguent les gros, où ce qu'il y en a des scandales. Les électeurs font leur corvée, cassent des cailloux sur la route, où ce que leurs représentants passent en carrosse, avec des chevaux qui sont un plaisir de les sarrosses, à se mettre des crottes à mesure que le peuple souverain balaye. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, se laissent dépouiller de leurs œufs, de leur laine, de leur lait, aussi bien qu'ils avaient pris part aux élections. Boum, là la guerre. Là les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs, avec leurs gars, vont terper les champs de blé ou ce qu'ils moissonneront pas. Feu qu'on leur dit. Et ils font feu. En avant, arche, et tant qu'ils peuvent aller, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent ce qu'on leur pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des pernes quand le vent se coule, les perniers. Les morts s'entassent et sous eux le sang coule comme du vin. Quand 3-4 points solides sur la vis au persoué, v'là du pâté, v'là du pâté de peuple souverain. Les vaches, les moutons, les oies, les dindons, pour le compte aux farmiers, se laissent kervier l'ampiot, tout bonnement mon Dieu, sans tambour, ni drapeau. Et v'là, pourtant, les bêtes se laissent pas faire des fouets, des coups. Le torio en corne, elle saigneux de l'abattoué. Mais les pauvres électeurs sont pas des bêtes comme d'autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte.
Vous venez d'écouter Nous avons dédié pour Jean cette super récitation, non c'est pas une récitation, interprétation de Bernard Meulien d'un texte de Gaston Coutet qui s'appelle Les électeurs. Voilà. Alors je crois qu'il est en plus au téléphone tout de suite. Et
donc il ne peut, oui, pas entendre, ouais, ses,
donc, il peut pas
ses
entendre
compliments.
Les compliments que je suis en train de lui faire, enfin au moins la dédicace que nous sommes en train de lui faire, ça fait rien, ben, il réécoutera une autre fois. Voilà, donc voilà, alors les vaches, les oies, les dindons, voilà, hein, ouais, seraient moins bêtes que les électeurs. Voilà, donc on reprend une deuxième partie. Et moi, j'aurais bien aimé revenir sur un truc que tu disais, Gérard, c'était par rapport à 1968, pardon, excusez-moi. Et il y avait Nestor Potkin, justement,
oui,
qui fait une citation et qui dit « Ce sont les patrons qui ont le plus pris au sérieux le slogan « L'imagination au pouvoir ». Oui. » Et je trouve que c'est vraiment un sacré humour, c'est vrai, d'ailleurs. Et de fil en aiguille, je voulais arriver à parler du journal La Décroissance. Si, et de conseiller de le lire parce que j'ai pas tout lu, j'ai lu surtout un article qui concerne les Anonymous. Alors, si ça vous embête pas, je voulais parler deux petites minutes de ça, parce que c'est quand même, cette fois-ci, jusqu'à présent, on voyait des articles qui décrivaient ce qu'était le mouvement des Anonymous, les participations à des dénonciations liberticides par rapport à l'Église de Scientologie, par rapport à Sony, par rapport à Wikileaks aussi, ils ont aidé à faire les trucs miroirs là pour conserver toujours les sites de Wikileaks. Enfin, un tas de choses qui étaient assez positives. Puis, des choses beaucoup plus contestables, puisque cette nuit encore, il est passé un film, un reportage à la télé où on voit quand même des choses qui sont assez contestables, genre pratiquer des formes policières pour essayer de faire condamner des gens pédophiles, c'est-à-dire inventer imaginer des personnes, des enfants, des petites filles et des petits garçons qui, sur Internet, feraient des annonces, cherchent petits vieux, parce que voilà. Et donc, c'est facile, comme ça, d'aller à la pêche aux idiots qui s'y laissent prendre et un peu malades, quoi. Donc ça, c'est un peu plus contestable. De même
Alors, c'est même tout à fait contestable. Oui. Un système de dénonciation, et de petit travail de policier, c'est...
Voilà, il y a des choses qui sont tout à fait contestables. Et donc, cette espèce de marée que représentent les Anonymous, eh ben, dans le journal La Décroissance, enfin, il y a un article qui démonte assez ce système-là, tout en disant ses côtés peut-être un peu positifs, mais quand même qui démonte ce côté hyper technologique qu'il représente, hyper consumériste en plus, parce que l'ordinateur, Internet, est un moyen pour faire rentrer dans la tête de tout le monde cette notion d'illimité, de gratuité, d'illimité, d'infini, et qui est vraiment pernicieuse, et c'est assez bien décortiqué dans cet article. Donc je vous conseille de lire cet article qu'il y a dans le dernier journal de La Décroissance.
Et tout à l'heure, tu parlais de cette découverte par les scientifiques de cette partie du cerveau,
oui,
qui stimule ou qui déclenche
le triatome.
Alors moi, je me demande si justement, parmi ces passionnés d'Internet, parmi ces passionnés de la technologie d'Internet, pour arriver, comme tu viens de le dire, à faire un boulot de policier, est-ce que leur triatome ne s'est pas développé à un point qu'ils ils considèrent finalement cette compétence technique comme un véritable pouvoir? Avec tout ce que ça comporte.
Oui, peut-être on pourrait le voir comme ça, mais...
Le thème, alors, on voulait, avec Gaston Coutet, rappeler
Le texte des électeurs, là encore, c'était au début du XXe siècle, ça a plus de 100 ans. Hein, vous voyez, toujours d'actualité, on peut faire confiance, comme on a évoqué tout à l'heure, à l'école de la République pour enseigner Gaston Couté. Vous savez bien que si vous questionnez un enfant, un adolescent, un lycéen, et puis en particulier, les fameux élèves, vous avez vu de l'école nationale d'administration, que ce soit l'ENA, mais surtout ce qu'on appelle sciences dépolitisées, Sciences Po en particulier. Comme disait nos amis d'Acrimed, les larves de Sciences Po, eh bien, ne connaissent pas Gaston Couté, les larves de Sciences Po. Et c'est pour ça que quand un personnage comme Monsieur Richard Decoin, pour faire de la confiture Decoin, disparaît, eh bien, les larves de Sciences Po vont mettre des bougies, des bougeoirs, et elles pleurent. Elles pleurent, puisque tu parlais tout à l'heure de l'imagination au pouvoir, Josie, en parlant de l'imagination et de l'imaginaire des élèves de Sciences Po, eh bien, c'est Harry Potter. C'est le magicien d'Harry Potter qui était imploré à Sciences Po après le décès de Monsieur Richard Decoin. Alors voilà où on en est, et donc peut-être que, évidemment, Nestor Potkin et puis Jean-Manuel Trémont, on le sait, quand il parle de l'imagination, je dis c'est pas un imaginaire, c'est un formatage, c'est un conditionnement, c'est une manipulation peut-être des neurones, et vous savez bien dans ce domaine-là, si certains appellent ça imagination, eh bien c'est comme les militaires, pour les armes, eh bien on ne sait pas où certains scientifiques, comme on le dit, sans conscience, pourront s'arrêter, hein, pour faire polytechnique en particulier. Donc les suites que ça peut donner dans la recherche des militaires par rapport à cette imagination.
Oui, mais tu parles de Sciences Po, avec l'ENA, c'est en effet le lieu où se constitue cette classe politique qu'on décrit aujourd'hui, tout en respectant, parce que là encore, on va vous dire, ah oui, mais vous allez faire comme le Front National, vous allez dire tous pourris. Non, nous disons pas tous pourris, nous disons simplement que si pourriture il y a, ce ne sont pas les individus qui se glorifient d'être au pouvoir, qui sont les principaux responsables, c'est ceux qui les y ont amenés. Et c'est en cela que la notion de vote, la notion d'élection est quelque chose de très important et n'est pas simplement une espèce de grande victoire, parce qu'on va vous dire, vous rendez compte, là, on vous donne la liberté de voter, on vous donne le droit de vote. Eh bien, simplement la notion de on vous donne, mais qui est-ce qui vous donne? C'est l'État. Eh bien, une liberté qu'on vous donne, un droit qu'on vous donne, ça n'est pas votre droit ni votre liberté. Il est certain que ça n'est que si vous-même, vous avez réussi à la concevoir, à la prendre, à s'en emparer, si on veut vous la supprimer, ça peut être en effet votre droit et votre liberté. Alors oui, pour en revenir donc au deuxième sujet, c'est-à-dire celui de Gaston Couté, là dont tu parles, l'abstention, je crois que j'avais déjà évoqué le fait dans une émission précédente que la revue, une revue qui s'appelle Ligne, Ligne au pluriel, et qui paraît trois fois par an, a consacré son numéro 37 de février de cette année 2012 à la question qui devrait tenailler toutes les têtes bien faites et qui est la suivante. Cette question en ce début de printemps électoral, électoralement étouffant, eh bien, c'est une question qui, en effet, se manifeste dans le titre de ce numéro de la revue. Plutôt que de se poser la question pour qui voter, est-ce que vous allez choisir Poutou, Sarkozy, Hollande ou bien Bayrou, est-ce que vous pourriez pas vous demander mais pourquoi? Pourquoi vous allez voter? Quel est vraiment le motif qui va vous inspirer cette décision, puisque vous, comme je le disais à l'instant, vous êtes libre, vous vous rendez compte, vous avez un droit, vous pouvez utiliser un droit de vote, une liberté. Eh bien, je crois qu'en effet, c'est une question que chacun devrait se poser. Et il se trouve que cette revue a interrogé des gens qui y contribuent, je suppose, parce que je la lis pas régulièrement, qui contribuent à ces différents numéros. Et donc, elle a interrogé 44 personnes. 44 personnes qui sont des amis de la revue ou des participants à la revue, en leur posant cette question. Pourquoi pourquoi voter? Et sur ces 44, eh bien, effectivement, il y a eu 16 réponses après effectivement une argumentation de 2 ou 3 pages, 16 réponses négatives, c'est-à-dire, bah, finalement, quand on réfléchit à cette question, quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est que finalement ce vote, quel est son sens, quelle est sa raison d'être, eh bien, on dit non, bah non, il n'est pas question que on aille se prêter à ce que nous considérons, nous, comme une mascarade. Et voilà ce que répondent 16 des intervenants. Alors, sur 44, voilà, ça fait 36%. Alors, il paraît déjà que il y a, en France, c'est les sondages qui disent ça, 35% de gens qui sont prêts à s'abstenir. Ben voilà, il se trouve que dans cette revue, 16 sur 44 ont expliqué, sans se prononcer, en effet, sur une question, la question stupide, pourquoi choisir un roi et pourquoi changer de roi, qu'est-ce qui, au fond, justifiait, pouvait expliquer cette décision d'abstention. Alors, ce que je voudrais souligner, là, dans ces réponses, c'est au fond qu'est-ce que les gens ont répondu, hein, qu'est-ce que ces 16 personnes, donc que moi je ne connais pas spécialement, mais quel a été leur argumentaire pour dire non. Alors il y en a et si j'ai choisi plutôt de prendre les 16 minoritaires, c'est parce que je pense que les minorités sont souvent plus astucieuses et plus en plus d'imagination, plus de capacité de vivre ensemble. Elles supportent mieux un peu les différences, les oppositions que les majorités. Alors voilà, dans une première réponse négative, l'intéressé parle les taiseux à l'attaque. Alors les taiseux, c'est ceux qui s'abstiennent. Et il utilise cette expression, allez, les taiseux à l'attaque. Il faut dynamiter le système par l'abstention, écrit-il, ou écrit-elle. J'ai pas donné les noms, mais vous pourrez les retrouver dans la revue. Il faut dynamiter le système par une abstention massive. Ce vote qui est devenu un principe moral, entre guillemets, qui glorifie le votard d'extrême droite et stigmatise celui qui pense et refuse un piège, une comédie dite démocratique. Mmh. Et je crois que là, il y a une bonne idée. D'une part, en effet, se taire, c'est pas simplement renoncer, mais c'est se battre, hein. C'est donc, voilà. Il faut les taiseux à l'attaque. Mmh. Je trouve que c'est bien, mais en même temps, cette espèce de stigmatisation de ceux qui votent tout en disant, mais au fond, les gens qui vont aller, les 20% qui vont aller voter pour Madame Le Pen, c'est des gens bien, des gens formidables, ces gens-là.
C'est des démocrates.
C'est des vrais démocrates. Alors, je crois que là, on a déjà une première explication à l'abstention. Bon, alors, je vais peut-être pas faire le tableau, encore que je l'ai fait, mais ça serait peut-être un peu long de faire le tableau des 16 réponses, mais je voudrais en citer une autre. Un autre intervenant dit, moi, je m'abstiens parce que, finalement, quand on parle d'un droit égal pour tout le monde, que tout le monde est à égalité pour aller déposer un bulletin de vote, eh bien, je pense que c'est une fausse égalité, soi-disant démocratique. Le pauvre travailleur, pour vivre, eh bien, il doit travailler. alors que le riche, il fait travailler. Je crois que ça, on a dit ça tout à l'heure à propos de Bertrand Russell. Le riche, il fait travailler. Alors voilà en quoi effectivement cette notion de glorification ou de morale du travail, elle est par définition inégalitaire et complètement fausse, hein, puisqu'effectivement on va dire aux riches, ah ben oui, c'est formidable, hein, vous faites travailler
vous
les
faites
autres,
vous
êtes un véritable,
une chose rare,
vous êtes à égalité, oui, avec le smigard que vous faites bosser. Donc c'est dans cette argumentation, dans ce deuxième argumentaire, l'intéressé, enfin la personne qui répond, écrit: l'individu est réduit à une abstraction, hein, le sujet économique, c'est-à-dire être pour le travail, et le sujet politique, être pour le vote. Alors l'espèce de mécanisme qui prétend définir l'égalité devant le suffrage universel. Et il ajoute: le fétichisme de la société du spectacle réduit l'individu à n'être qu'un citoyen, comme dirait Gérard, un citoyen, pour un citoyen qui ne va participer que à une farce électorale. Qu'est-ce que la politique, dit-il? La politique, ça serait la proximité, le local, le lieu où elle s'exerce. Or, la politique est confisquée par les plénipotentiaires de la finance, elle est confisquée par les détenteurs des pouvoirs offshore, par les banques, loin des urnes. Et il ajoute alors cette expression, elle est confisquée par tous ces personnages qui sont loin des urnes et des petits papiers plié dans le secret des isoloirs.
Plié dans le secret. Les grenouilles, comme je les appelle, d'isoloir, hein, c'est ouais. Ça, la messe électorale.
Alors, il y a un troisième intervenant, justifie son abstention en disant, eh bien, moi, je m'abstiens parce que, finalement, l'élection, c'est un phénomène messianique. On attend un messie.
Oui.
L'élection qui déclenche la ferveur, ça n'est pas de mon ressort. Un phénomène messianique, on attend, voilà, qu'un envoyé de Dieu va racheter nos péchés. La démocratie guerrière, écrit-il, installe les élections de force, fabriquant une fausse paix sociale. Je ne suis un citoyen qu'au moment où l'isoloir m'isole, écrit-il.
Bien sûr.
Je ne choisis que ce que le pouvoir capitaliste m'autorise.
Ouais. Sous surveillance, sous contrôle,
oui.
Hein, voilà.
Et il ajoute d'une façon un peu crue, eh bien, l'isoloir, c'est un urinoir dans les chiottes de la République. Ma liberté,
voilà,
dit-il,
est
organisée par l'État.
Voilà. Alors Jacques, ben oui, tu disais en même temps la vidéosurveillance dans l'isoloir, ça a été pratiqué dernièrement en Russie. Hein, on se souvient, Poutine a justifié en disant la corruption, il n'y en a jamais tant eu. Je vais installer, il y a eu des caméras vidéo installées dans tous les bureaux de vote en Russie. Enfin, certains ont le rappelé parce que ça manque pas de sel, puisque finalement, en disant à l'ensemble de la population, bah, vous voyez, si on met des caméras, hein, c'est donc que ce vote-là se fera sans corruption. Et on a vu, effectivement, sur Internet, entre autres, des vidéos. Alors, les vidéos, elles peuvent être truquées, je n'en sais rien, mais où il y avait véritablement des bourrages d'urnes, enfin, des trafics absolus qui se faisaient, justement, sous la caméra, et ce qui ne veut strictement rien dire. Et encore, ça ne veut rien dire, la caméra, les contrôles.
Oui, il paraît même que les mécanismes de contrôle arrivent à voir pour qui l'électeur va voter.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'était pour montrer
avant même que ce soit dans l'urne.
Donc on a dit que les urnes, là aussi, souriez, vous êtes filmés, hein, on en met ça dans l'isoloir. Alors c'est vrai que l'isoloir, là la même chose, on appelle ça les grenouilles d'isoloir, comme les grenouilles de bénitier, hein, c'est pas gentil pour les grenouilles. Ce que tu essayais de dire aussi par rapport à l'égalité du bulletin de vote, c'est-à-dire entre l'esclave, entre le pauvre, le misérable, puis le patron du CAC 40, et ben Madame Ségolène, hein, Royal, si vous le savez, hein, évidemment dans sa propagande du vote, hein, il y a la semaine dernière, elle a remis ça en expliquant, elle a été beaucoup applaudie, c'est le moment, c'est-à-dire que le salarié qui va être licencié par le patron du CAC 40, hein, eh bien sa voix a autant de force que celui du CAC 40. Voilà ce que, et elle a été vigoureusement applaudie. Il vous reste ça, hein, pauvre dans la rue, SDF, précaire à 11 millions, avec votre petit bulletin, hein, c'est quand même beau le suffrage universel, une fois tous les 5 ans, on peut exister, comme on dit dans l'isoloir. Voilà le type de connerie. Alors on parlait tout à l'heure évidemment ce qu'on apprend, parce que faut quand même pas l'oublier, elle est passée aussi par l'école énarchique, hein, de l'ENA, ah oui, de Sciences Po.
Fait,
hein, donc,
elle fait partie de la caste, hein, c'est vrai,
qui est complètement
séparée de l'ensemble de la population. Et encore une fois, c'est pas du tout une attaque ad hominem.
Ce n'est jamais une attaque ad hominem.
C'est simplement une attaque contre une fonction qui, malheureusement, a été de plus en plus gonflée depuis le coup d'État permanent du général de Gaulle, qui a été gonflée d'une façon extraordinaire, notamment en instaurant un système monarchique.
Exactement. Hein, alors Jacques, aussi, on en parlait un peu ce matin avant cette émission, ce que l'on disait, c'était que par rapport à être entendu, ça ne veut pas dire être compris, par rapport à ce que l'on peut dire évidemment sur Radio Libertaire, parce que on peut dire que quasiment il y a un unanimisme de l'ensemble des médias, l'ensemble des journaux par rapport à la votation. Donc c'est extrêmement dur. Et là aussi, habitué dans un système qui va de soi, hein, puisqu'on vous dit en permanence, vous n'allez pas voter, hein, qu'est-ce que l'on dit? Des gens se sont battus pour ça, monsieur. Des gens ont risqué leur vie pour ça.
C'est ce qu'on disait, on culpabilise et on stigmatise celui qui ne va pas voter.
Et alors, là aussi, le grand changement, on l'a vu aussi, parce que certains l'ont dit par rapport à la votation où il y a eu les hommes-femmes à égalité, hein, le vote qui était censitaire au 19e siècle, pour parler de l'Hexagone, on a dit c'est un grand progrès le jour où les femmes pourront voter. Eh bien, on a vu véritablement que c'est un progrès décisif, là, encore une fois. Donc, on est à chaque fois, hein, et pourtant, c'est quand même une période qui commence à dater, eh bien, raconter les mêmes sornettes, les mêmes histoires. Mais pourquoi? Parce que le fidèle du bulletin de vote, on l'a dit plusieurs fois, hein, croire ou réfléchir,
il faut choisir.
Et là aussi, le problème de la religion du bulletin de vote, c'est aussi la même chose, vous l'avez vu dernièrement, avec anecdotiquement cette église évangéliste improvisée où il y a une poutre qui a cédé, donc il y a eu tout un tas de d'évangélistes fervents, 150 qui sont tombés, hein, il y a une petite fille qui est morte, enfin voilà un petit peu quelle est la situation par rapport à ça. Alors on nous a raconté évidemment cet événement un peu en boucle, hein, ils cherchent l'ensemble des médias. Et bien là, on est dans le phénomène exactement religieux, dont aller expliquer à ces évangélistes qu'ils n'avaient rien peut-être à foutre dans ce lieu et que le truc serait écroulé et qu'on comprend pas pourquoi ils pleurent, puisque finalement ils sont certains qu'ils vont rencontrer Dieu, que ça va être le paradis.
Oui, puis c'est Dieu qui a fait descendre le plancher.
C'est un miracle. Alors c'est plein de contradictions. Et là, la même chose, on est confronté, quand tu parlais tout à l'heure du citoyen, le bourrage, le catéchisme, c'est pas pour rien qu'on emploie cette expression, le catéchisme républicain, c'est-à-dire quand on passe dans la moulinette républicaine, dans le gavage républicain, qui est un gavage que l'on subit, évidemment, enfant, que ce soit dans ce pays, à l'école, ça continue, au collège, au lycée, à la fête faculté à l'université et qu'on continue, quand on va pas à la faculté à l'université, eh bien quand on va dans un lycée professionnel ou quand on bosse, on commence à bosser à 13-14 ans, on subit exactement ce gavage, ce bourrage de crâne. Donc c'est très très dur après d'aller se bagarrer, d'autant plus que ça apparaît comme quelque chose de différent. On dit c'est pas une religion. Là on a fait justement, vous savez bien, la laïcité, la séparation d'église et de l'État. Ben non, la séparation d'église et de l'État, d'un côté vous avez l'église, vous avez la religion, de l'autre côté de l'État. Et la religion, comme on a dit souvent dans cette émission, une religion peut être plus néfaste, aussi néfaste, qui prend ses mêmes origine, peut en cacher une autre, et donc c'est très compliqué d'essayer de faire réfléchir le fidèle de l'État.
Alors, là, j'ai simplement souligné sur trois intervenants leur raison de s'abstenir. Un quatrième écrit, nous sommes dans un système nocif. Et alors, voter, dit-il, mais c'est vouloir sauver un système dont la nocivité n'est plus à démontrer. Fini la guerre des riches contre les pauvres, hein, c'est ça qui est grave, fini la guerre des riches contre les pauvres, c'est l'union sacrée. Entre les prétendants au pouvoir, il n'existe aucune divergence sur les objectifs. Et je crois qu'en effet, cette notion d'union sacrée, c'est très grave, parce que ça veut dire que effectivement tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme dirait l'autre, et que c'est en général une façon pour les pouvoirs de noyer le poisson d'une part et puis de noyer les pauvres d'autre part, parce que quand par exemple un phénomène grave se produit, une guerre, ou en tout cas l'approche d'une guerre, eh bien qu'est-ce que font les gouvernements? Ils prêchent en effet l'union sacrée. Ils disent, ben, vous voyez, on a un ennemi commun, les Allemands vont arriver, donc il faut que vous soyez socialiste ou que vous soyez capitaliste, eh bien tout le monde ensemble pour se défendre. Et je crois que ça, c'est effectivement un mécanisme pervers, parce que il s'explique par le fait que les gens, ils ont tendance en effet à se regrouper quand il y a un événement grave qui va survenir, et sans forcément remarquer que parmi eux se trouvent des gens qui ont des intérêts rigoureusement opposés. On sait très bien par exemple que pour la guerre de 14-18, eh bien les capitalistes avaient pratiquement contribué à armer l'Allemagne. Ça a été la même chose d'ailleurs pour la guerre de 1939. Donc je crois que cette idée, ne succombons pas à ce qu'on considère comme une union sacrée, elle est importante. Alors il y a aussi un autre intervenant qui dit, mais au fond, finalement, moi je crois que ceux qui votent, c'est ceux qui au fond peuvent placer leur cousin ou qui sont potes avec celui qui va être élu. Il dit, voilà, il y a des citoyens stratèges, ils font des paris d'acteurs, ils se sont mués en espèce de spectateurs intéressés. La scène politique est une arène où se déroule un spectacle, un jeu sur le mode du débat bouffon et boursouflé. Voilà, sur le mode du débat bouffon et boursouflé, il est nécessaire de s'abstenir, conclut-il. Et alors il y en a un qui dit qui mange de l'État, et il fait une citation d'un anarchiste qui s'appelait Allemand, et j'ai pas eu le temps de vérifier son, je crois que c'est à l'époque de la République de Bavière, il me semble, à la fin de la guerre de 14-18, qui s'appelle Gustav Landauer, et qui écrivait « Qui mange de l'État en crève ».
Ben voilà. Qui mange
de l'État en crève. Et il cite aussi, il dit, voilà pourquoi je m'abstiendrai, parce qu'il, alors là, il fait une citation de Bakounine. Et il dit, prenez le révolutionnaire le plus radical, placez-le sur le trône oui. de toutes les Russies, ou conférez-lui un pouvoir dictatorial. Eh bien, avant un an, il sera devenu pire que le tsar. Donc, notre société donc est effectivement régie par le fétichisme, ajoute-t-il. Il n'existe aucune autonomie des personnes, tant dans le plan politique que dans le plan économique. C'est ce qu'on a dit sur l'être travail et puis l'être consommateur. Les masques, entre guillemets, ne sont pas les auteurs du scénario, hein, ça c'est aussi ce qu'on a développé. Derrière les masques, il y a le marché, dans les urnes, c'est toujours, et alors oui, il conclut ça, dans les urnes, c'est toujours le général qui gagne. Et donc, je crois que là, oui, ça revient bien toujours, à ce qu'on dit.
Alors, la revue, Jacques, deux petites observations. Alors, on avait évoqué ce matin, Le Monde Libertaire, dans son éditorial, hein, qui parle d'une distraction, donc bien au-delà, enfin c'est ce qu'on avait dit ce matin, légitimation, donc le refus. L'observation qui a été faite dans cet éditorial, c'est vrai que, souvenons-nous, enfin si on peut se souvenir, peut-être qu'on veut oublier tout ça, mais les différents scrutins précédents, eh bien, la com du gouvernement avait été particulièrement active et réactive avec des bulletins, des affiches hein, sur absolument le devoir, fait ton devoir. C'était un peu, on voyait dans toutes les villes énormément d'affiches, énormément de spots, hein, comme on dit, des spots publicitaires, là aussi de communication sur ça. Et là, bien, c'est très très en deçà. Ça existe quasiment pas. Et pour preuve, les affiches du bourg, comme nous disait Gaston Coutet, eh bien, énormément de panneaux électoraux ne tombaient pas dans le panneau et sont vierges, hein, vierges. Enfin, ça va pas durer. Donc, il y a des panneaux de 0 à 10 et on les voit. Il y a rien de collé. Alors apparemment, il n'y a pas d'engouement hein, pour le collage d'affiches hein, pour le moment, parce que c'est quand même la course des petits chevaux, là, elle est quand même lancée dans quelques jours. Alors première observation, donc Le Monde Libertaire l'explique en disant, ben il n'y a pas besoin parce qu'il y a des sacrés battleurs, des sacrés joueurs de tambour, et en particulier Mélenchon, qui fait le tribun, et ben il fait le boulot pour les autres, hein, de dire, il faut se déplacer. Il faut aller voter. Et il parle de l'insurrection, comme vous le savez, dans les urnes. Alors, on parle évidemment d'un oxymore, hein, puisqu'il faut l'expliquer, l'oxymore, hein, vous le savez ce que c'est. Donc, dans Le Monde Libertaire, dans l'éditorial, l'insurrection par les urnes, c'est évidemment un oxymore, parce qu'il n'y en aura pas. Alors, simplement, l'insurrection, ça sera après, on verra ça, en tout cas. Et rappelez aussi, on se souvient, Jacques, peut-être, Josy, le canard enchaîné, qui quelques jours avant la votation, nous disait, il faut quand même, on a quand même pendant 5 ans raconté que les politiciens c'était des crapules, que tout ce système-là c'était un système évidemment pervers, que c'était quand même le capitalisme, hein, de nombreux articles, et le canard enchaîné, les derniers jours, eh bien aussi battait le tambour, allez voter, et là, changement de programme, je ne sais pas si vous avez vu.
Non, j'ai pas vu.
Mercredi, donc hier, hein, alors est-ce qu'ils veulent, c'est un peu subliminal, mais je vais vous lire le titre, hein, c'est la première page du Canard Enchaîné. Surenchère de Le Pen, Hollande, Sarko, Mélenchon sur le permis, c'est plutôt le permis déconduire. Au moins, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le permis déconduire?
Oui, ça veut dire faut les éconduire.
Ah, voilà. Le permis déconduire, c'est ça. C'est gratuit. Ben, c'est gratuit, les élections, justement. Donc, la gratuité, ça veut dire, eh bien, dispersez-vous, hein, parce que c'est la surenchère et c'est grotesque, c'est ridicule. Alors, c'est un peu le thème de l'éditorial, hein. Le personnage en quête d'auteur est quand même rappelé qu'une mesure importante, c'était lancé par le pouvoir, c'est de dire que les retraités, ils toucheront leur pension, ça sera pas le 8, hein, puisqu'ils font de la cavalerie, vous le savez, depuis 50 ans, par rapport au pognon pour payer les retraites, mais ça sera plus le 8, mais le premier de chaque mois. Alors, quel est le gros avantage que ça a? C'est que vous savez que vous êtes pauvre le premier de chaque mois, bien plus que d'attendre le 8. Donc, le gouvernement a dit, il faut absolument trouver une mesure radicale. Voilà un peu ce qui est évoqué, évidemment, le grotesque de l'histoire, mais pour une fois, hein, il y a comme un sursaut, on pourrait dire, ou tout du moins un parfum dans l'air d'abstention ou déconduire les lecteurs en lui disant il y a autre chose à faire et que le grotesque, si ces personnages-là, comme nous dit le Canard Enchaîné, sont d'une vulgarité, d'un grotesque épouvantable, ça serait quand même le comble de dire il faut aller voter après. Hein. Voilà.
Oui, on pouvait... Excuse-moi, Jacques, tu...
Non, mais je pense que c'est à toi de parler, hein, c'est pas à moi.
Oui, parce que moi, je voulais citer aussi Floréal, qui a fait un petit texte, justement, toujours par rapport à la votation, et qui est intéressant, parce que...
Ou Josy, il faut le dire, Floréal.
Sur son blog.
Sur le blog, alors,
sur
on
le
dit
blog
aux auditeurs, il faut rappeler,
Floréal,
quand même, parce
qui est voilà. Un ex-animateur, même un des fondateurs de Radio Libertaire.
Donc voilà. Il y a un blog, hein. Non, rappelez ça aux auditeurs qui viendraient comme ça. Blog Floréal ou blog Claude Guillon, si vous le souhaitez aussi. Et
oui,
donc le blog Floréal pour aujourd'hui, voilà.
Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs informations. Par rapport à Mélenchon, vous vous rappelez la phrase qui disait qu'on s'en débarrasse, je ne me rappelle plus quel était son slogan.
Qu'ils s'en aillent tous.
Qu'ils s'en aillent tous, voilà. Oui.
Et moi d'abord, on avait dit ici, moi d'abord.
Oui, et lui d'abord. Et donc, justement, par rapport à Mélenchon, il y a sur le blog de Claude Guillon, justement, un petit rappel. C'est que Mélenchon, alors je ne me rappelle plus en quelle année, avait... Si. Participer justement, enfin a été un fervent contradicteur de, enfin ou un pouce à la censure, puisque il a voulu justement il a été le premier à rappeler qu'il fallait censurer le livre de Claude Guillon.
C'est
qui,
ça.
Qui, rappeler
Suicide mode d'emploi. Donc
voilà.
On peut le savoir, juste Josy, si,
donc
si
le
tu
rappeler,
veux, j'ai
ce grand démocrate
préciser que sa question de Jean-Luc Mélenchon, parce que on va dire, il faut préciser quand même les choses, c'était dans le journal officiel du Sénat, hein, sénateur qu'il est depuis 30 ans, du 14 mai 1992, donc ça a pile poil 20 ans. 20 ans, et Monsieur Mélenchon attirait l'attention du garde des Sceaux, je vous lis la question,
oui, voilà.
Sur les conditions d'application de la loi du 31 décembre 87, donnant à la justice les moyens d'agir contre la provocation suicide. Il lui demande où en sont les poursuites en cours concernant la réédition au quatrième trimestre 89 de l'ouvrage Suicide mode d'emploi de Claude Guillon et Boniek, hein, j'ai plus son prénom, toujours diffusé et qui avait été à l'origine de nombreux suicides. Voilà, et Claude Guillon rappelle quand même que dans la Révolution, parce qu'un révolutionnaire comme lui, hein, a réintroduit le suicide dans le code pénal qui en avait été chassé par la Révolution. C'est-à-dire que Mélenchon l'ignore probablement, que la loi de censure de 87, dont il réclamait l'application contre nous, a réintroduit le suicide dans le code pénal, alors qu'il en avait été chassé par la Révolution. Voilà le grand révolutionnaire, le grand liberticide Mélenchon.
Voilà, c'était bien de rappeler. Donc, voilà. Et puis, alors, donc, on revient à Floréal qui a fait un billet. D'ailleurs, je vous annonce aussi qu'il en a fait plusieurs récemment, dont un sur Michel Onfray, qui est quand même aussi à lire.
Il était à la télé, hein.
Oui. On va pas.
Michel Onfray.
Dernièrement.
On va pas
dire
quelques conneries supplémentaires de Saint-Michel, du Mont Saint-Michel.
Voilà. Et justement, donc, il fait un très bon billet sur les défenseurs. Même anarchistes, qui se disent anarchistes, sur les défenseurs de Michel Onfray.
L'abstentionniste, hein? Apparemment, absolument pas abstentionniste, non. Non, Josy, c'est pour ça de le rappeler quand même, les libertaires avec Michel Onfray, il en est au vote blanc. Après, la mélenchonite, hein. Il a passé le cap, il s'est soigné de la mélenchonite. Il était NPA, il a été Ségolène Royal, enfin, il est toutes les couleurs aussi de l'arc-en-ciel, puisque c'est le Mont-Saint-Michel. Et là, dernièrement, donc, c'est le vote incolore, c'est le vote blanc, hein, mais quand même, il y a... Et là, peut-être, je sais pas si vous l'aviez vu, donc, le plateau télé, puisqu'il fait tous les plateaux télé, et puis qu'on aime bien regarder ça, on a que ça à faire. Et donc là, il rappelait quand même qu'il se questionnait, peut-être Jacques, je ne suis pas sûr qu'il va y aller. apparemment, c'était pas certain là.
C'est-à-dire que là,
peut-être non. Hein,
oui, c'est-à-dire que là, en fait, il a été piégé par Raymond Bouteille, qui a fait Romain Bouteille, qui a fait un numéro assez rigolo, ouais, dans lequel effectivement, lui, il y avait aucune ambiguïté. Il a utilisé même un mot que on a utilisé souvent ici pour parler de foire.
Oui, bah,
il a dit
sûr,
effectivement,
oui,
c'est une véritable foire. Je ne comprends pas que des gens puissent aller participer ça, voilà, à ce type voilà. de foire. Alors, Onfray était un peu estomaqué. Il a essayé de dire, ben oui, je suis peut-être un peu d'accord avec Romain Bouteille.
Voilà.
Alors le billet
de Floréal,
moi je l'appréciais parce que justement, quand on parle, on le sait bien, quand on parle qu'on est contre le vote, on a affaire à des gens qui comprennent rien du tout. Comme tu disais, il faut vraiment des explications parce qu'on paraît comme des êtres surnaturels et bien plus. Donc alors il fait une analyse là-dessus, comme quoi. Quand tu es contre le vote, tu es un mauvais citoyen.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Toutes les arguments pour la gauche, tu fais le jeu de la droite. Pour la droite, tu fais le jeu de la gauche. Et donc, il fait justement, c'est à propos d'un dessin, d'un dessin qu'il a relevé, où on voit un petit bonhomme franchouillard, le pif rouge, un peu aviné, qui tient
hasard,
une baguette, voilà. Et qui lui, alors là je vois plus parce que mes lunettes vont pas assez loin, je me rappelle plus ce qu'il dit, mais genre je vais pas voter, ça sert à rien. Et on voit donc Bachar al-Assad, les mains dans le sang jusqu'au coude, dans une mare de sang, et qui dit mais c'est ce que je m'efforce de dire d'expliquer à mon peuple. Voilà, et donc il fait la critique de ce texte.
C'est tellement abject que moi j'aurais même pas osé commenter ce dessin.
Peut-être aussi, peut-être on ne sait même pas si ce jeune dessinateur, je crois
Mann.
Que c'est Midi Libre, formaté, je pense que là il fait ça à l'insu de son plein gré.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pour rire, de toute façon, beaucoup de choses.
D'ailleurs, la critique des Anonymous aussi, elle est un peu là. C'est-à-dire que c'est une partie de rigolade. On rigole de tout et n'importe comment. Voilà, c'est un petit peu le sens,
oui,
à mon avis.
Oui,
on est
persuadé que, justement, comme l'a dit Badiou, enfin, bon, on l'a déjà dit, il n'y a pas que lui qui l'a dit, que tout refus de l'abstention, ça, c'est tout de suite un matraquage. Hein, les gens traités, ça a été pour lui antisémite, salopard, mauvais citoyen, des gens se sont battus pour ça. Enfin, toutes les injures peuvent pleuvoir. Hein,
voilà, justement, alors, j'aime bien ça, dans une de ses conclusions, il dit, que penserait-il le dessinateur si, partant de là, un caricaturiste de son niveau faisait de l'électeur moyen un vecteur du fascisme en puissance? Retourner un peu l'humour. Voilà. Est-ce que ce serait apprécié si on faisait ce genre de...
Oui, mais c'est ce qu'on a lu l'autre fois, quand tu as lu le texte de Libertad, l'électeur est un criminel, effectivement, c'est celui qui va voter, quel que soit son vote, mais surtout celui qui va voter si on fait une comparaison avec ce dessin, qui va voter pour Le Pen.
Voilà, alors je sais pas.
On peut rappeler aussi le texte de Jean, puisqu'on a dédié à Jean le texte des électeurs de Gaston Coutet. On peut rappeler qu'il avait fait un texte aussi qui s'appelait Abstention sans complexe dans un des mondes libertaires de, je sais plus si c'est de décembre ou de janvier. Voilà. Je me tais.
Bon, alors si je continue un petit peu le tour d'horizon sur ces gens, ces contributions de la revue Ligne, il y en a une qui m'a spécialement intéressé parce que ça rejoint un peu le slogan qu'on a souvent utilisé ici, et j'ai vu que Floréal, il le mettait aussi en tête de son blog, croire ou penser, il faut choisir. Alors là, c'est pas croire ou penser, il faut choisir, mais c'est un des contributeurs de Ligne qui dit voter n'est pas penser. Hein, l'élu, dit-il, n'est jamais un autre. Autrement dit, c'est contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, il n'y a pas de choix. L'élu n'est jamais quelqu'un d'autre. C'est le même, il est toujours le même. Quand on est un individu souverain, eh bien, dit-il, eh ben, il faut faire entendre, il faut voir, il faut exister, il faut avoir, en effet, la capacité de s'exprimer soi-même et sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre. L'individu souverain, dit-il, puisqu'on prétend, c'est un peu ce que Gaston Coutet, quand il parle de le peuple souverain.
La pâtée de lui peuple dit, souverain, oui. Il prendra la pâtée après.
Lui dit, l'individu souverain, dit-il, eh bien, il prend toute la place, hein, il n'a pas besoin d'un autre. Il prend toute la place assez simplement. Pourquoi voulez-vous que quoi que ce soit d'autre vienne la lui disputer. Donc là, c'est une conception très très particulière du fait que au fond, pourquoi voulez-vous choisir un espèce de roi qui vient vous prendre votre place? Cette place, écrit-il, eh bien, ni un élu, ni un dieu, ni un maître, cette place, personne ne tient cette place, sauf, et c'est là où ça m'a vraiment intéressé, cette place, c'est moi, et il ajoute, et Max Stirner, l'unique ne vote pas. Alors je crois qu'en effet, ça c'est une réflexion un peu poétique et en même temps très originale sur le fait qu'un individu qui pense, eh bien il va pas voter, un individu qui est conscient de son existence, il va pas aller dire, parce qu'au fond, on peut même pas dire qu'il fait un choix, on peut même pas dire qu'il décide de quelque chose, puisqu'il va donner sa voix à un autre, il va dire à un autre, bah ouais, toi tu vas être le président, puis tu vas faire ce que tu veux, hein. Alors voilà, c'est donc le contraire même de la capacité, de la particularité, de la force nécessaire pour l'expression d'un individu.
Alors, Jacques, peut-être l'autre sujet, on vous avait parlé au début de cette émission du nucléaire. Terminer par quelque chose peut-être d'amusant, pour clore évidemment ce thème de la votation et de l'abstention. Eh bien, puisque Gaston Coutet nous parlait des animaux qui ne votent pas, un marchand de croquettes, hein, pour chats et chiens, ils ont organisé une zoo-élection. Zoo-élection, ils ont fait défiler devant des chats et des chiens les têtes sur des photos des différents candidats. Et alors, on s'attendait à ce que certains fassent des miaous, certains fassent des wawa, d'autres lèvent la papatte, et apparemment, évidemment, le marchand de croquettes était peut-être intéressé, 54%, et ils ont parlé, alors moi je dirais voterait Hollande, mais ils étaient majoritaires, hein, pour s'abstenir. Là encore une fois, ils étaient majoritaires pour s'abstenir, et je pourrais dire que si ceux qui voulaient aller voter, puisqu'on a parlé de Gaston Coutet, ce marchand de croquettes pensait peut-être au pâté de peuple souverain, cher à Gaston Coutet, pour en donner aux chiens et aux chats. Voilà la zoo-élection. Eh ben, je pense que on évoquera peut-être, si on a le temps, la ferme des animaux de Orwell. On est en plein dedans, hein. C'est la zoo-élection. Et donc, c'est beaucoup plus drôle avec les chats et les chiens. Et là, encore une fois, comme nous disait Gaston Coutet, eh bien, ils n'iront pas voter. Voilà. Alors,
on pourrait peut-être faire une petite pause, hein.
Ah ben, Radio Libertaire, Josie, c'est Chronique Hebdo.
Je vais essayer parce que j'aurais bien aimé passer les moutons de Jacques Brel.
Oui, alors, voilà. En attendant, peut-être.
On va essayer.
C'est parti, si 043 71 89 40, c'est le numéro du studio de Radio Libertaire.
C'est 01, voilà. Pas 0.
C'est 01.
01 43 71 89 40.
Ça n'a pas changé.
Mais Jacques Brel ne veut pas.
Mais il peut pas, alors Jacques Brel, c'est parti.
Les bergères, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pur laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergères, j'aime pas les moutons,
grise les bergères, j'aime pas les animaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolé bergère, j'aime pas les agneaux. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie et ça redit oui. Désolé bergère, j'aime pas les brebis. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite et dès que le vent se lève, montrent le bas de leur dos. Désolé bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder. Prends garde à te garder bergère, un jour tu vas peiner. Désolé bergère, j'aime pas les bergers. Désolé bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons.